Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Il y a les mélomanes avertis et les autres dont je suis. Or, voici un ouvrage qui satisfait tout le monde, car il est à la fois érudit de cette vraie érudition qui se promène avec légèreté et élégance dans les arcanes du savoir et accessible à tous, car clair, explicatif et bourré d'anecdotes. Il s'agit de Passion baroque, édité chez Fayard, et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Gilles Cantagrel. Gilles Cantagrel, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'aurais pas envie de vous présenter à nos auditeurs, parce que vous êtes connu ô combien. Mais si je parle de votre CV, on en a pour une heure. Mais
écoutez, à mon âge canonique, si je commençais pas à avoir un CV un petit peu long, ce serait dommage.
Bon, mais vous n'avez pas une montre quand même, vous savez, vous n'avez pas raté votre vie.
Non. Écoutez, dites simplement que je suis en train d'écrire mon 28e ouvrage.
Voilà, mais je dirais moi que c'est pas mal, bravo. Surtout que ces ouvrages sont passionnants. Je dirais que vous êtes à la fois un formateur, un passeur, un transmetteur également, un transmetteur de savoir et de passion. Bon, ça vous va ça au moins ?
Ça me va très bien. Mes amis au Québec où je vais souvent me disent tu es un communicateur.
Avec l'accent, c'est mieux.
Oui, et ma vocation à moi, c'est d'être dans la mesure du possible un passeur. Voilà. Exactement.
Voilà, de savoir, de passion. Et justement, votre nouvel ouvrage s'intitule Passion baroque. Alors, sous-titré 150 ans de musique en Europe. Alors, moi, j'aimerais savoir, la musique baroque a commencé comment, à quel moment ? Est-ce que ce n'est pas un moment précis ?
Non, alors, c'était une très bonne question. Je vais juste revenir sur ce que vous venez de dire. Il s'appelle Passion baroque avec un B majuscule, comme vous l'avez remarqué. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas la passion qui est baroque. Mmh. C'est une passion pour le baroque en général.
Oui.
Hein, qu'il soit en sculpture, architecture surtout, en peinture, etc. Et il se trouve que c'est une dénomination qui a été donnée par des historiens de l'art, il n'y a pas très longtemps, pour la musique, il y a moins d'un siècle, mais que les historiens de l'art, surtout des arts plastiques, emploient pour désigner une période très particulière de l'histoire de l'art entre la Renaissance et le classicisme. Alors, tout ça paraît un petit peu abstrait. Pour ce qui est de la musique, c'est cette période très particulière qui va de 1600 à 1750. Et qui a commencé très rapidement et qui s'est éteinte assez rapidement aussi. Et que nous, en musicologie, nous coupons en trois sections et ça marche très bien. 1600, 1650, 50, 1700, 1750. C'est-à-dire le baroque naissant, le baroque médian, le baroque tardif. Alors ça fait un petit peu...
On va en parler. Bon. Parce que moi, j'ai vu que c'était... baroque, ça signifie perle irrégulière.
Alors, à l'origine, c'est un terme portugais, baroco, qui veut dire une perle mal fichue, une perle irrégulière. Et quand on a commencé à parler de baroque en art, c'était péjoratif.
Oui, c'était pas un compliment.
Comme quand on a commencé à parler de gothique vers 1800, au moment du génie du christianisme, enfin à peu près, ça désignait un art barbare. Et les goths, c'était des barbares.
Oui. Et baroque, et puis on voit quand même que quelques auteurs ont critiqué cette musique baroque.
Oui, violemment même, à l'époque.
Oui, voilà. Bon, pour situer, où en est l'Europe à ce moment-là?
C'est une bonne question, mais...
Il y a un mouvement quand même, il y a une sorte...
Ah, c'est un énorme mouvement des idées en général.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire autour de 1600, le moine polonais Nicolas Copernic, qui remet en question le vieil ordre du monde qui existait depuis Ptolémée, depuis l'Antiquité, on pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Aujourd'hui encore, on dit le soleil se lève, le soleil se couche.
Bon. Et c'est lui qui bouge.
Il se trouve que c'est nous qui bougeons sur notre petite Terre, autour du soleil, l'héliocentrisme. Mais ça remet tout en cause. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, la Terre n'est plus le centre du monde, que l'homme n'est plus le centre de la Terre, et que Dieu non plus.
Et oui, tous les dogmes là sont balayés
d'un coup. Ouais. C'est bien pourquoi d'ailleurs, un peu plus tard, en 1630 et quelques, donc en plein début du baroque, Galilée est condamné par le pape, parce qu'il ose dire que la Terre tourne et qu'elle tourne autour du Soleil. C'était inconcevable. Et c'est une remise en cause qui a mis très longtemps avant d'entrer dans les mentalités des gens.
Oui. Et alors, en même temps, ce que je lisais dans votre ouvrage, c'est qu'il y a aussi, se développe, et forcément, puisque les dogmes maintenant, on les remet en question, se développe un esprit de tolérance.
Alors ça, c'est fondamental. Merci de prononcer ce mot, car au début du baroque, on est dans l'intolérance totale. C'est-à-dire que Luther, au XVIe siècle, il ne crée pas une religion nouvelle. Il remet là aussi à leur place les abus extraordinaires de l'Église catholique de Rome, c'est-à-dire le trafic des indulgences. Alors, ça nous a valu la chapelle Sixtine, mais tout de même, on a abusé de la naïveté des gens d'une façon parfois honteuse. Si on leur dit, si vous donnez un peu plus d'argent pour la quête que l'on fait, vous aurez peut-être un mois de purgatoire en moins. Ce qui est grotesque, puisque une fois qu'on est mort, il n'y a plus de temps. Donc, et tout le monde s'est laissé abuser comme ça. Et Luther a voulu, d'une part, balayer ça, supprimer l'autorité absolue du pape. Non, le pape, c'est un homme comme les autres. Il peut se tromper. L'infaillibilité pontificale, c'est un dogme qui est apparu après. Mais Luther l'avait déjà condamné. Première chose. Deuxièmement, il a réaffirmé le grand principe qu'il tenait Luther, qu'il tenait saint Thomas d'Aquin, qu'il tenait saint Paul, si on remonte toute la généalogie, c'est la foi seule suffit, ce ne sont pas les œuvres. Sola fide, par la foi seule. Sola gratia, par la grâce seule. Sola scriptura, par le retour à l'écriture. Et il ajoute, soli deo gloria, bon, ça, comme on le sait, à Dieu seul la gloire. Et ça, c'est une conception complètement nouvelle qui bat en brèche l'autoritarisme pontifical et de l'Église. Et pour répondre à votre question, ça a été très mal vu, évidemment, ces idées nouvelles, très bien vues par un certain nombre de princes allemands, et très mal vues par les deux puissants de ce monde, le pape et l'empereur. Le pape, ça n'était pas quelqu'un d'autre que Léon X, le fils cadet de Laurent le Magnifique. L'empereur, c'était un petit jeune homme qui s'appelait Charles Quint, et qui allait faire parler de lui beaucoup dans les années à venir.
Et on comprend qu'ils avaient peur que leur pouvoir soit ébranlé.
C'était un contre-pouvoir qui tout d'un coup... ça a commencé par l'excommunication de Luther, et ensuite la mise au ban de l'Empire, prononcée par Charles Quint, la mise au ban de l'Empire, le bannissement, c'est une sentence extrêmement grave, c'est comme une fatwa aujourd'hui, c'est-à-dire que quiconque rencontre Luther dans la rue peut lui passer l'épée au travers du corps, on le remerciera. C'est la raison pour laquelle le prince électeur de Saxe, qui s'appelait Frédéric le Sage, un beau barbu, costaud, a fait enlever Luther la nuit et transporté à cheval, et Luther croyait que c'était pour le tuer.
C'était pour le protéger.
C'était pour le protéger au château de la Warburg.
Voilà. Alors, on va revenir à la musique quand même, parce que il me semble, en vous écoutant, que dans le fond, cette musique découle de ces idées nouvelles.
Totalement. Mais totalement. C'est une... Alors, je vais y revenir. Vous parliez de tolérance. Eh bien, la réforme de Luther va déclencher une vague d'intolérance qui va s'appeler la guerre de 30 ans. 1618-1648, et pendant cette guerre, imaginez-vous que les deux tiers de la population allemande ont disparu. Une catastrophe comme il n'y en a pas eu d'autres dans l'histoire de l'Europe, en pourcentage. 10 millions de morts.
Deux tiers, ça fait énorme, oui.
Alors, hélas, on a fait mieux, depuis,
oui,
hélas.
Dire, oui.
Mais en pourcentage, deux personnes sur trois ont laissé leur vie. Et alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'à la fin de la guerre de 30 ans, qui a d'ailleurs suscité une vague de flambées mystiques et de poésie, et de musique, à la fin de la guerre de 30 ans, il y a dans les mentalités de ces peuples germaniques, la Germanie est une très vaste contrée hein, au centre de l'Europe, un besoin de paix. Je dirais, en termes modernes, on dirait plus jamais ça.
Oui.
Hein? Bon, oui, pour fixer les idées. Et à tel point que le vieux principe qui avait été réaffirmé avant même la réforme, avant le 1600, si vous voulez, cuius regio eius religio, hein, c'est-à-dire que la population doit avoir la religion du pouvoir, que ce soit un conseil municipal, un évêque, un prince, peu importe. Et si ça ne vous plaît pas, vous passez dans le pays d'à côté. Je rappelle que l'Allemagne était divisée en 350 unités territoriales et qu'il y avait des unités territoriales, des principautés, des évêchés et autres, qui comptaient 3000 personnes, 3000 habitants. Donc, quelquefois, aller dans le pays d'à côté, ça prenait une demi-heure ou à peine plus. Bon. Et alors, on a eu ce besoin de tolérance qui s'est manifesté, et c'est très important pour la musique de Bach, de Buxtehude, de tous ces gens-là, ou de Telemann, du baroque tardif, qui s'est manifesté d'une façon très précise. Par exemple, il y avait à Leipzig, la capitale du luthéranisme, hein, quand même. Bon, c'était totalement luthérien, sauf qu'il y avait une communauté catholique et qui avait un petit emplacement pour se réunir, pour pratiquer le culte catholique, dans le château. Pas dans un cagibi quelque part, dans le château. Quand Bach va à Köthen, il a un emploi extraordinaire, il était le chef d'un orchestre, il était le premier personnage de la principauté de 4500 personnes, enfin bon, c'est pas énorme.
Mais enfin, le premier personnage.
Le premier personnage, il avait un orchestre parmi les meilleurs de toute l'Allemagne, il y avait un orchestre, ils étaient 17 musiciens triés sur le volet, qui venaient de partout de l'Allemagne. La principauté de Köthen était traditionnellement calviniste. Alors, un luthérien qui était en guerre ouverte avec les calvinistes à l'intérieur de la famille protestante ne pouvait pas aller à Köthen. Si, il n'aurait pas pu si le prince Léopold n'avait eu deux parents, dont une mère qui était luthérienne. Et alors, quand ils sont fiancés, ces deux parents, c'était un mariage impossible. Un calviniste ne peut pas épouser une luthérienne. Que faire? On demande l'arbitrage de l'autorité suprême qui est l'empereur. Or, l'empereur est catholique, je précise. c'est extraordinaire. Oui. Et qu'a fait l'empereur à Vienne? Il a dit, écoutez, mariez-vous, soyez heureux, ayez beaucoup d'enfants et vivez en paix. Et donc, de ce fait, la princesse luthérienne a pu faire construire une église luthérienne, une école luthérienne, un cimetière luthérien qui a permis à Bach de venir. Et tout le monde vivait parfaitement en paix. La tolérance. Et je vais ajouter encore un point, parce que c'est un vaste sujet. La ville de Lübeck, ou Buxtehude, s'est établie et est restée 40 ans.
Et où Buxtehude, que Bach a rejoint à l'âge de 20 ans.
Oui, qui a été finalement le maître spirituel et musical de Bach.
Quasiment paternel, d'ailleurs.
Oui, pour cet orphelin qui était Bach, il s'est cherché un père. Mmh. Il a trouvé des pères en musique, mais le père qu'il a trouvé, c'est évidemment Buxtehude. Eh bien, à Lübeck, au moment où arrive Buxtehude, commence son déclin. Ce qui est très triste pour Buxtehude. Très peu de temps avant son arrivée, Lübeck s'est figé dans une orthodoxie luthérienne intolérante. Donc, même les luthériens orthodoxes, mais de tendance piétiste, ont été exclus et chassés de Lübeck.
Sur le plan économique, c'est pas très bon, ça.
Ah, c'est une erreur énorme. C'est comme la révocation de l'édit de Nantes. Bon, on peut pas faire pire sur le plan économique.
Oui, oui.
Bon. Et alors, il y a, à 50 kilomètres, il y a une autre grande ville qui s'appelle Hambourg, qui, au contraire, a pratiqué la tolérance. À Hambourg, on accueillait les marchands, les commerçants, juifs, anglicans, catholiques de la Méditerranée qui arrivaient par
Amsterdam
Hambourg.
Aussi, non? Oui, je crois. Amsterdam également, non?
Et alors, Amsterdam, même chose. Le fameux siècle d'or hollandais, le siècle d'or d'Amsterdam, c'est exactement la même période, parce qu'Amsterdam a pratiqué la tolérance. Si vous allez à Amsterdam, eh bien, on peut visiter une maison dans laquelle, qui s'appelle le grenier du bon Dieu, dans laquelle le dernier étage qui est un étage apparemment normal, il y a une salle à manger, un salon, et bien dans la salle à manger, il y a une petite tribune, et puis des sièges, et au fond, une sorte de buffet qui pivote sur lui-même, et quand il a fait un demi-tour, c'est un hôtel catholique. Et on a dit aux gens à Amsterdam, pratiquez la religion que vous voulez, mais de chez vous. Pas de démonstration, ce n'est pas de l'hypocrisie. En ce temps-là, c'est un énorme progrès. Oui. Vivez en paix.
Voilà. Alors, donc la musique baroque s'installe progressivement, j'imagine.
Très vite.
Très vite ?
Progressivement, mais quand même très vite. Voilà ce qui se passe. Vous savez, dans la grande polyphonie de la Renaissance, donc juste avant le baroque, donc à la fin du XVIe siècle, où on entend Palestrina, Vittoria, Roland de Lassus, qui écrivent des chansons, qui écrivent des motets, qui durent 2, 3 ou 4 minutes, pas plus. Quand ce sont des messes, ce sont plusieurs fois 3 ou 4 minutes, et toujours à 4 voix. Donc, je vous cite l'exemple d'une chanson profane de Roland de Lassus, écrite en français dans les années 1580, qui est une chanson de femme mal mariée, et qui dit ceci « Quand mon mari vient du dehors, ma rente est d'être battue. Il prend la cuillère du pot, à la tête il me la rue, j'ai grand peur qu'il ne me tue. » Mais c'est une femme. Eh bien, on entend 4 voix. Et 4 voix qui chantent une très belle polyphonie. Et il y a une espèce de réaction, juste autour de 1600, qui se produit avec Monteverdi, et qui écrit une œuvre qui est l'Orfeo, par exemple, et on entend, l'Orfeo, c'est un chanteur. Un individu. Et quand il chante sa plainte d'avoir perdu Eurydice, quand il se présente aux enfers, et que, pour se présenter, ça c'est un moment bouleversant, le troisième acte, il dit, je suis Orphée. C'est-à-dire, je suis la musique. Et la musique qui fait danser les animaux, qui fait ouvrir la porte des enfers. La toute-puissance de la musique. Et c'est un madrigal orné à une seule voix, avec des vocalises extraordinaires. Ça, c'est complètement nouveau sur le plan musical par rapport à ce qu'on faisait 20 ans avant.
Voilà.
C'était mal vu, d'ailleurs. Mais enfin...
Oui.
Énorme succès de la part des gens. Alors, ça va en même temps que ce retour à la... prétendu à la tragédie grecque, tout un cénacle d'intellectuels, d'écrivains, voulait donner une renaissance à la tragédie grecque et pensait, à juste titre d'ailleurs, que les vers étaient chantés et non pas prononcés, avec la scansion, quand on connaît un peu le grec ancien, c'est bon, une langue qui est extraordinairement musicale et accentuelle, et... Donc ils ont dit, il faut refaire la tragédie ancienne, antique. Et donc, on a écrit de la musique, mais une musique qui était complètement moderne. Et ça a fait une explosion. Les gens ont adoré ça. Il y a eu un deuxième ouvrage de Monteverdi en 1608 qui s'appelait Ariane. Et on voit Ariane sur son rocher, abandonné par Thésée. Il chante, « Oh mon Thésée, oh mon amour, pourquoi t'es-tu enfui ?» On est dans un réalisme total, et ses pleurs, ses plaintes, ses cris,
voilà,
même,
ça, c'est
une chose totalement nouvelle. Et alors, il y a un vieux chanoine, enfin, je trouve qu'il est vieux dans sa tête, mais je ne sais pas quel âge il avait, qui s'appelait Artusi, et qui a écrit un pamphlet très virulent contre cette musique nouvelle, en disant il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de... On dirait la même chose aujourd'hui pour la musique contemporaine.
Oui.
Il n'y a plus de rythme, il n'y a plus d'harmonie, ça n'a ni queue ni tête, c'est épouvantable. Ce sont des cris, ce n'est plus de l'art.
Oui.
Parce que pour ce bon chanoine, la musique doit être un reflet de la perfection divine.
Et donc pas de pathos.
Pas de pathos, ouais. Voilà. Bon, c'est une musique qui est finalement complètement désincarnée, qui peut être admirable, mais qui est désincarné. Là, c'est le contraire. On entre dans le réalisme le plus brûlant.
Oui. Alors, vous dites que le baroque est multiple par essence. C'est-à-dire que il y a des choses... Le changement, moi, j'aimerais comprendre le changement par rapport à la musique qui précédait.
Alors, il y a cette façon d'exprimer les passions.
Voilà.
C'est un temps de passion. Et alors, au lieu de faire chanter par 4 voix, on va faire chanter par une voix.
D'accord.
Bon, très personnalisée.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait des 3 autres parties? On les fait jouer par des instruments. Donc, tout d'un coup, c'est une musique nouvelle pour les instruments qui apparaît. Mmh. On va écrire des sonates, des symphonies, dans un style ancien pour nous, mais purement instrumental.
Ouais.
Alors, et puis, il y a une musique vocale qui se détache et une musique instrumentale. Et pour lier le tout, eh bien, on invente l'opéra. Tout simplement.
Vous parlez...
ou l'oratorio, qui est un opéra sacré.
Ah oui, on pourra, j'espère qu'on aura le temps de parler d'opéra. Mais vous parlez d'instruments, les instruments changent également.
Mais bien sûr, parce que comme on a besoin de beaucoup d'instruments et d'expressions nouvelles aux instruments, ben, il faut fabriquer des instruments nouveaux et, ou développer ceux qui existent.
Oui.
Ou développer ceux qui existent déjà. Et donc, il y a un essor, au début du XVIIe siècle, considérable à la facture instrumentale. Donc, c'est le début des grands clavecins, le début des grands des orgues, les violons, c'est le siècle de Amati, puis ensuite de Stradivarius, etc. Toute la lutherie italienne, à Crémone principalement, pas uniquement, aussi à Milan, à Venise, les violoncelles, très célèbre, le Stradivarius du violoncelle, qui s'appelait Matteo Goffriller, tout, la technique vocale aussi, se change, et... C'est extraordinaire, quand on visite un musée d'instruments de musique, on ne peut pas imaginer que l'invention humaine soit allée aussi loin. On fabrique des instruments de toutes formes, on cherche des sonorités
c'est
nouvelles.
C'est un foisonnement de
un foisonnement incroyable, et je dois dire que le 19e siècle a largement contribué à couper les ailes de tout cet élan et à normaliser. Alors on sait que un alto, le caisse d'un alto doit mesurer, je crois, 41,9 centimètres, enfin, au millimètre près, oui. Hein, aujourd'hui. Mais à l'époque, on faisait selon le goût, le talent, l'imagination du luthier. On faisait un instrument qui est un peu plus gonflé, un peu plus épais.
Sa liberté.
Totale liberté.
À un moment donné, ça m'a amusé, vous parlez de la griserie technique de Bibert pour le violon, de Scarlatti pour le clavecin et de Buxtehude pour l'orgue. Je me suis dit, mais c'est le début du végétariat.
Ben pourquoi pas ? J'y avais pas pensé, mais c'est une bonne observation. Oui, oui, en effet. Alors, pas dans les termes actuels du show business, mais en effet, c'est-à-dire que l'organiste avant, bon, il soutenait le chant de l'assemblée, il donnait une intonation, il meublait les temps creux de la liturgie. Il a maintenant un rôle totalement différent. Il va s'emparer de l'attention des fidèles par des musiques véhémentes, parfois, à l'entrée, et puis il va paraphraser les cantiques, ça je parle des luthériens en tout cas, il va paraphraser ces cantiques qu'on appelle des chorales, pour donner le ton, pour rappeler la mélodie, et ensuite pour le faire chanter les fidèles. Et il se permet, dans ces grandes improvisations, que sont les préludia, et les diverses manifestations à l'orgue, les variations par exemple, il se permet une liberté mais inimaginable aujourd'hui. Et donc d'une vélocité digitale qui est nouvelle, et elle est favorisée d'autant que on fabrique des orgues plus souple, plus maniable, etc. Bon, ça va. La facture d'orgue et le jeu de l'orgue sont unis dialectiquement l'un avec l'autre, bien sûr. Et puis alors, la partie de basse qu'on soutient par quelques marches au pédalier, enfin au pied, eh bien, on fabrique des pédaliers de plus en plus perfectionnés, et les grands pédaliers, du temps de Buxtehude, à la fin du XVIIe, ont facilement 30 notes. 30 notes pour toute la partie de basse.
Ouais.
Donc, vous vous rendez compte, c'est formidable, parce que je peux jouer le soprano et l'alto à la main droite, le ténor à la main gauche, et la basse au pédalier, qui a autant de possibilités, de facilités d'exécution pour les plus grands organistes que les mains. Alors ça permet, par exemple, d'avoir un accompagnement à la main gauche, deux parties, la basse, trois parties, et puis de faire chanter une mélodie par-dessus, avec d'autres couleurs sonores.
Mais cette richesse de possibilités, c'est exaltant, c'est passionnant.
Mais, et c'est bien, et ça a été une flambée. Ouais. Bon.
Gilles Cantagrel, je vous propose une pause musicale. Alors, il s'agit de l'œuvre de notre bien connu chef d'ensemble Les Passions, de Jean-Marc Andrieux, qu'on aime beaucoup ici.
À juste titre, parce qu'il a un grand
remarquable.
Talent.
Oui, ouais. Voilà. On l'écoute.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous reprenons notre entretien avec Gilles Cantagrel, venu nous parler de passion baroque. Et c'est vrai, passion, B majuscule, baroque, B majuscule. Et c'est vrai, et l'ouvrage est passionnant. 150 ans de musique en Europe. Nous dirons un petit mot quand même aussi de la rencontre de Lübeck, ce fabuleux voyage de 400 km à pied l'hiver, de Bach à 20 ans, personnage surdoué déjà.
Tout à fait, parce qu'il avait appris le violon petit garçon avec son père qui était violoniste, c'est normal. L'enseignement, surtout chez les luthériens, passe par le père et par la mère, qui sont les deux gérants, selon les propos de Luther, du foyer familial. Alors le père, étant musicien sans doute de grande qualité, il n'a pas composé, mais Johann Ambrosius, Jean Ambroise, a appris à son dernier petit garçon, comme au précédent, à jouer, lui a appris la musique, donc en jouant du violon. Et puis alors, le drame survient quand Bach vient d'avoir 9 ans, il perd sa mère, et quelques mois après, son père. À 10 ans, il est orphelin. Il va être recueilli par un frère aîné qui, lui, est claveciniste et organiste. Et il a travaillé avec un des plus grands clavecinistes de l'époque, qui s'appelle Pachelbel, Pachelbel en français. Et puis, ce garçon se marie, il a des enfants, il ne peut plus entretenir quand même, non seulement Jean-Sébastien, mais le frère aîné, le petit frère à côté de Jean-Sébastien, et il l'envoie dans un collège dans le nord de l'Allemagne, très loin, dans la direction de Lübeck, sur cette vieille route où Bach va dans ce collège, ce gymnasium, comme on dit en allemand, ce gymnase, faire un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui des études secondaires, et dans une Lateinschule, c'est-à-dire dans une école où les maîtres parlent le latin et les élèves répondent en latin, font des devoirs en latin. C'était la formation
nous
de base.
Nous sommes loin de nos écoles.
Oui, mais maintenant on fait de l'algèbre et de la trigonométrie, et évidemment on n'en faisait pas à l'époque, donc bon, c'est un choix. Et là, à Lüneburg, il l'envoie. C'est pas un hasard s'il l'envoie là, c'est parce que le grand organiste qui s'appelait Georg Böhm à Lüneburg était un Thuringien et un ami de la famille. Bon,
d'accord.
Il était un petit peu supervisé. À 17 ans, il perd sa voix de soprano et il va être obligé, il ne peut plus payer ses études avec son chant, et il va être obligé de travailler très vite. Et quand son premier poste à Arnstadt, au cœur de la Thuringe, il continue comme un fou, mais le jeune, il a 18 ans, et organiste, il est déjà tellement compétent qu'on lui fait expertiser l'orgue d'Arnstadt. C'est extraordinaire. Oui. Il sait tout et il donne un concert, ce qui est normal, à 18 ans. Et la population d'Arnstadt, ou en tout cas le conseil municipal, ils sont là, réunis, trouve qu'il a tellement de talent qu'il faut l'engager tout de suite sans concours. On va même pas organiser un concours, on a le meilleur. Ouais. Déjà, à cet âge-là.
Oui, ils avaient eu du flair quand même.
Oui. Oui. Ben, il faut dire aussi que Bach appartenait à une très grande famille de musiciens, de violonistes surtout. D'ailleurs, Bach... Il est né là-dedans. Ça veut dire ménétrier, violonneux de village, Bach. Oui. Ça ne veut pas dire seulement ruisseau, ça veut dire aussi ça. Et il est né là-dedans. Et tous les membres de la famille ont pris l'habitude de se réunir une fois par an dans l'une de leurs grandes villes, à Erfurt, à Arnstadt ou à Eisenach, et faire de la musique ensemble, et surtout se passer toute l'information. Le vieux Intel dans telle ville, est à toute extrémité, ce serait un poste très bien pour ton fils. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Hein.
Il est arrivé
qu'il y ait 100 Bach musiciens dans ces réunions annuelles. C'est dire vraiment... C'est une dynastie. Ils ont tissé une énorme toile d'araignée et on ne peut pas y échapper.
Bon. Ce qui explique d'ailleurs que dans votre ouvrage La rencontre de Lübeck, donc édité chez Desclés de Brouwer, ce qui explique pourquoi sur ces 400 kilomètres qui le mènent à Lübeck, il va s'arrêter un petit peu partout, parce qu'il doit y avoir des cousins là-dedans.
Mais évidemment, il y a des cousins, des parents, il y a un facteur d'orgue, là il y a un compositeur qui connaît bien mon frère aîné, etc.
Voilà.
Et donc, que s'est-il passé? Il s'est rendu compte, malgré tous ses efforts, tout ce qu'il pouvait lire, recopier, qu'il lui manque encore quelque chose d'essentiel, c'est d'avoir rencontrer le maître absolu, qui en ce temps était Dietrich Buxtehude, qui était déjà un vieux monsieur. Donc, où est-il? Il est le maître de la musique à Lübeck, ancienne, encore capitale de la Hanse à ce moment-là, le marché hanséatique. Et donc, il y va.
Ouais. Buxtehude, tout de suite, reconnaît.
Mais attention, il n'a pas d'argent. Donc il est obligé d'aller à pied. Et à cette époque-là, 400 km à pied, ça ne faisait pas peur à un garçon de 20 ans.
Surtout qu'il a fait froid.
En plus, il va fin octobre, mais on marchait, on ne prenait pas son 4x4 pour lâcher une baguette au coin de la rue. C'est des gens qui savaient marcher, et surtout à 20 ans. Regardez les itinéraires de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a un monastère ou un relais tous les 30 km. C'est l'étape normale d'un marcheur en ce temps, en tout cas. Eh bien, il va à Lübeck. Il a dû se faire recommander avant par son prof, son ami Böhm, qui connaissait bien Buxtehude. Ça, on ne sait rien, on n'a aucune trace. Mais il arrive, il va frapper chez Buxtehude et qui l'interroge. Il lui fait jouer du clavecin brillantissime.
Ouais.
Il fait improviser extraordinaire. Lire une partition du premier coup. Bon, mais il paraît que vous êtes aussi violoniste. Au combien, il lui donne un violon dans les mains, il joue.
Ouais.
Même chose, improviser, déchiffrer une partition. Il sait tout à 20 ans. Alors que peut faire ? C'est pas difficile à imaginer le vieux Bouxéoud qui va avoir à faire répéter ses grands oratorios annoncés longtemps à l'avance pour célébrer la mémoire de l'empereur qui vient de mourir et émettre des vœux pour le successeur, le jeune empereur, son fils. Il s'appelait Joseph Ier et Léopold Ier. Alors ça va être une fête extraordinaire, il va convoquer tous les musiciens à la ronde, il y a même un oratorio qui est prévu avec 25 violons. À l'époque, c'est pas un violon, c'est 25 violons. Donc tout ce monde, il faut s'en occuper, il faut le loger, le nourrir, c'est déjà une tâche délicate, le transporter, et puis surtout, le faire travailler. Comment faire répéter des chœurs, des gens qui ne se connaissent même pas, les faire déchiffrer, les faire mettre au point, les faire chanter juste, chanter ensemble, les instrumentistes, même chose.
Il y a un travail énorme,
il y a un violon qui n'est pas très bien, passe-moi ton violon et règle le violon, il savait faire ça. Ouais. Un clavecin qui est un petit peu douteux, bon, il y a un emplumage qui n'est pas bon, et il remplume le clavecin. Alors, c'était extraordinaire, c'était aussi une providence pour Bouxéoud lui-même, en même temps que pour Bach. Ouais. Du coup, Bouxéoud va le loger chez lui, il a à sa disposition une très grande maison à côté de l'église Sainte-Marie, où il peut loger les gens, il a logé son beau-frère, il a logé son père qui est venu mourir chez lui, bien, il va loger Bach, et puis ils vont vivre pendant 3 mois ensemble. Et là, c'est la rencontre, le carrefour mythique, le carrefour fabuleux entre l'ancien et le jeune.
L'ancien a trouvé quelle serait la relève.
Ah ben, voilà. Il l'a trouvé. Alors, il avait déjà une petite idée, je suppose, parce qu'il avait eu un disciple extraordinaire, mais qui venait de mourir à 30 ans, qui s'appelait Nikolaus Bruns, on l'a un peu oublié aujourd'hui, et les quelques œuvres qu'il a laissées sont extraordinaires, il faut absolument les jouer et les écouter.
Répétez son nom.
Bruns. Bruns. Nikolaus Bruns, il est mort à 30 ans, 31 ans, et il nous reste de lui 12 cantates et 5 pièces d'orgue. Et c'est extraordinaire. Et puis, il n'a pas de successeur désigné, il a eu 7 enfants, mais 7 filles. Il n'a pas de fils, donc il n'y a pas de successeur. Or, en ce temps-là, et là je vais peut-être briser une légende bien établie, en ce temps-là, il était normal que, dans une profession libérale, le successeur s'entende avec la veuve du prédécesseur, moyennant une somme d'argent, parce qu'il n'y avait pas d'assurance vieillesse, rien du tout, ou bien... l'épouse, si elle était encore en âge de convoler, ou épouse une de ses filles, ou une nièce.
Assurer
le tissu social, la cohérence du tissu social.
Ouais. Bon, oui. Mais vous savez qui marchait ou ne marchait pas, peut-être, hein? Parce que, bon, est-ce que tous s'y référaient à cette obligation ?
Non, ce n'était pas une obligation. Oui, voilà. C'était une tradition. Une belle tradition j'aime. Et il y a des cas où le nouveau n'a pas épousé une fille du prédécesseur. Mais c'est une belle tradition, je trouve. Et alors, Bouxéoud, on dit toujours que Bouxéoud avait une fille extrêmement laide, je ne sais pas comment on le sait, il n'y avait pas de portrait. Et que tous les concurrents, les prétendants, s'enfuyaient à toutes jambes une fois qu'ils l'avaient vue. C'est une pure légende. Il y a deux prétendants qui avaient été invités c'est un signe de civilisation, de société, invité par le conseil municipal de Lübeck. Puisque notre directeur de la musique commence à prendre de l'âge, il faut penser à sa succession. Nous, ça nous paraît cynique, mais et c'était normal.
C'est sage.
C'était un usage normal. Alors, il y en a deux qui sont venus depuis Hambourg, qui était à 50 km de Lübeck. Il s'appelait Matheson, le grand théoricien et organiste, et son jeune copain qui avait 18 ans, qui s'appelait Georges-Frédéric Händel. Et Matheson, âgé, raconte cette histoire. Il dit, étant donné que ni Händel ni moi n'avions le moindre attrait pour l'état de mariage, Non, il n'a pas dit que la fille était laide. Bon, eh ben nous sommes rentrés chez nous, mais évidemment, Hambourg était une métropole. Il n'allait pas aller s'enfermer à 18 ans, ou 22 ans, pour le restant de leur jour, à Lübeck.
C'est humain. Oui. Dites-moi, vous me parlez de Bach, et j'ai vu que vous distinguiez trois périodes dans le baroque, et Bach se trouve, lui, dans le baroque tardif.
Exactement. C'est très curieux, ces trois périodes. Bon, c'est facile de les distinguer, mais elles correspondent vraiment à quelque chose.
Oui,
toute la première génération disparaît vers les années 1650, 1660, et toute une nouvelle génération, avec Buxtehude, il y a aussi Purcell, il y a Charpentier, il y a des gens de tout premier plan, apparaissent sur la scène musicale à peu près vers 1650 et meurent toutes entre 1700 et 1710. Et c'est à ce moment-là que se développe une génération née autour de 1685. En 1685 naissent Jean-Sébastien Bach, Georges Frédéric Händel et Domenico Scarlatti. Rien que ça, cette trilogie.
Oui.
Une trilogie. Et dans la dizaine d'années autour de 1685 naissent Rameau,
Telemann.
Oui. Et puis d'autres moins connus, Quantz, Marcello, etc. Et Vivaldi.
Oui.
Donc c'est une espèce de floraison extraordinaire que on appelle, bon, pour simplifier, le baroque tardif, et qui va être la fin, l'apothéose, l'apogée du baroque musical.
Oui. Alors vous parlez de Vivaldi, on parle de Scarlatti. C'est surtout en Italie que on situe cette période. Pas vraiment, parce que Bach, bon.
Non, mais c'est l'Italie mère des arts,
ouais,
depuis longtemps, et le reste à ce moment-là.
Il n'y a pas de Français, hein. Pas vraiment.
Non, il y a plusieurs raisons. C'est que la France répugne au baroque, à cette espèce d'extravagance.
Nous sommes déjà cartésiens.
Oh, déjà, terriblement. Louis XIV avait une sainte horreur du baroque. Quand vous voyez que le cavalier Bernin, le grand Bernini, est venu en France, il est venu à Paris, il a fait des projets pour le Palais du Louvre, projet qui a été rejeté par Louis XIV, c'était trop fantasque. Et surtout, bah, ce qui vraiment m'émeut, c'est qu'il a fait une maquette pour une statue équestre de Louis XIV. La maquette existe, elle est fantastique. Elle était
bien plus belle que celle que nous connaissons.
Oh, elle est à la Villa Borghese, à Rome, dans une vitrine, on la voit très bien. Et il a même réalisé la statue, mais elle était trop fantasque pour Louis XIV, et il l'a fait raboter. Il l'a fait débaroquiser, en quelque sorte, classiciser. Donc, il y a...
Donc, pour la musique, même...
Non, la France... Alors, il y a un art de la musique très important à l'époque baroque, en France. Mais je ne dirais pas que c'est du baroque français. C'est-à-dire que c'est une espèce de branche latérale du grand baroque qui est d'essence italienne. C'est avec Monteverdi qu'apparaît le baroque, et qui ensuite va se développer et s'aimer non seulement dans l'Europe, mais même en Amérique latine.
Gilles Cantagrel, nous faisons une seconde et dernière pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Schau nicht auf das Berg, 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 au Hause Simon ist es aufsätzige. Trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Hingesell wurden sie unwillig und sprachen,
das bindet diese
Parole d'auteur Monique Fauché.
Oui, visiblement, les Français n'étaient pas tout à fait prêts à accueillir le baroque. Descartes disait « certains sons excitent les passions », c'était encore autre chose. Mais c'est Rousseau qui a critiqué vertement, il me semble, non ? La musique baroque.
Il a critiqué la musique française, surtout.
Non, carrément.
Oui, et il conclut sa lettre sur la musique française en 1752 par cette phrase inoubliable, d'où je conclus que la France ne peut pas avoir de musique, ou que si jamais elle en a une, ce sera tant pis pour elle. C'est assez violent quand même.
Oui,
mais
oui,
il était suisse quand même. Alors,
oui, c'est vrai.
Hein, oui.
Donc...
Enfin, il était citoyen de la République de Genève, pour être précis.
Alors, quels sont les thèmes de prédilection dans la musique baroque ?
Ce qui fait essentiellement le baroque, je dirais, c'est le mouvement. Les mouvements de l'âme, les mouvements de la sensibilité.
L'émotion, les émotions.
L'émotion, c'est... Mais,
le mouvement.
Mouvoir, c'est mettre en mouvement. Et ça n'est pas un hasard si le dernier ouvrage publié par Descartes de son vivant, en 1649, s'appelle le Traité des passions de l'homme, de l'âme. On est dans le monde de l'émotion. Alors, qui dit émotion dit donc mouvement. Mouvement, donc danse.
Ouais.
Donc, virtuosité instrumentale. Tout ça, on peut décliner, mais c'est le mouvement.
Ouais.
Alors, il y a aussi, la représentation physique, donc l'opéra.
L'opéra. Parce qu'avant, il n'y avait rien comme représentation physique.
Il y avait non, il y avait dans les collèges, il y avait les mystères des cathédrales, il y avait dans des représentations religieuses, dans des collèges religieux, mais non, l'opéra naît vraiment en 1600, avec le Rédis de Péry,
en Italie,
en langue italienne.
Et c'est là qu'apparaît cette pratique étrange, les castrats, ces personnes, moi je trouve ça étonnant d'ailleurs encore, hein. Surtout que j'ai appris que les castrats étaient interdits par l'Église en 1902. C'est pas si vieux que ça.
Non, la fabrication de castrats, si j'ose dire, s'est arrêtée à ce moment-là.
Ah oui.
Oui. Au 19e siècle, il y avait encore des castrati.
Qui étaient des vedettes.
En Italie. Alors, qui étaient des stars. Que je ne voudrais pas choquer les auditeurs, mais qu'on pouvait pratiquer des interventions sur ces jeunes gens. Tels qu'ils ne pouvaient plus procréer,
mais
que les signes sexuels secondaires, comme la voix, restaient d'enfants, mais que...
Rien ne les empêchait de rencontrer...
Ça. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Bon, je ne sais pas comment le formuler. Ils ont eu des succès auprès des dames extraordinaires. Farinelli, Senesino,
ces gens-là. Il y a eu d'ailleurs un film remarquable.
Des maîtresses en quantité.
Oui, je ne sais plus quel est l'auteur de ce film, Farinelli. Il y a eu un film, je ne me souviens plus. Bon, peu importe. Voilà, c'est très curieux parce que finalement, pourquoi ? C'est uniquement la qualité de la voix ?
Oui. D'accord. Parce qu'il y avait la qualité et la puissance. Parce que Farinelli ou Senesino, que je citais, Senesino devait mesurer 1m80 ou 90. C'était vraiment des hommes, sauf qu'ils avaient gardé...
Les voix de tête, en fait.
Oui, ils avaient gardé la voix de soprano angélique.
Oui.
Et donc, on a confié assez souvent à des castrats des rôles, l'empereur, par exemple, Giulio Cesare de Handel, Jules César, castrato, bon... Parce qu'il y a une cage thoracique beaucoup plus grande qu'un enfant. Donc il y avait un volume sonore, et puis avec beaucoup d'apprentissage, un apprentissage extrêmement long, extrêmement difficile, on fabriquait, il y avait un grand castrato vedette pour 100 gamins qu'on avait amputés.
Oui,
hein.
Oui. Bon, c'est assez sinistre. Et suivant la volonté des parents, hein, en règle générale. Oui, ça, voilà.
Je crois que la volonté est pécuniaire.
Oui, pécuniaire, oui. Il n'y a pas eu un tel engouement en France.
Non. Il n'y a pas de castrate en France. L'exception culturelle française, toujours.
Voilà. Alors évidemment, on pourrait parler de beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. Il y aurait beaucoup à dire. Parce que vous parlez des sentiments, des émotions. Bon, évidemment, tout ce qui a été aussi de l'ordre de la musique religieuse, évidemment. Et vous dites, on parlait de la vie, mais aussi on parlait de la mort.
Tout autant, parce que c'est la même chose. Il n'y a pas de mort sans vie, et il n'y a pas de vie sans mort. Enfin, c'est normal. Et la mort est parfaitement intégrée à cette époque. Ce n'est pas quelque chose d'épouvantable qui survient à la fin de la
vie. Ça, c'est très luthérien, d'ailleurs.
Alors, chez Bach, c'est très impressionnant. Il a côtoyé la mort toute sa vie. Hein, il a vu mourir ses deux parents, la moitié de ses enfants. Il a eu 20 enfants. Bon, à une époque où il y avait...
20 enfants ?
Mais oui, mais c'est... Avec deux femmes, mais ça fait 10 enfants qui ont passé l'âge de 5 ans.
Oui,
c'est ça. C'est normal, à cette époque, il y a eu une grande poussée de la natalité, parce que la guerre des 30 ans que j'évoquais tout à l'heure, ayant détruit les deux tiers de la population, il fallait bien que par une obscure volonté de la nature, on repeuple et on maintienne l'espèce humaine, tout simplement. Oui. Et alors, il y a eu une grande crise de natalité, mais... avec une mortalité infantile qui était restée très importante. Oui. Et je compare volontiers ça à cette natalité débordante qui a frappé les Français du Québec à la fin du XVIIIe siècle, après la défaite au Plaine d'Abraham à Québec. Il y a eu une vague de natalité que les Québécois, encore aujourd'hui, nomment la revanche des berceaux. C'est une très belle expression.
C'est une très belle expression. Alors, parler de la mort, évidemment, c'est parler de l'éternité. Et puis, la musique parle d'éternité. Voilà, Gilles Cantagrel. Mais c'est trop court, c'est trop court. Vous reviendrez.
Eh bien, je reviendrai. Ah ben, j'aime trop Toulouse, il faut que je revienne.
Très bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Passion baroque, le dernier ouvrage de Gilles Cantagrel, sous-titré 150 ans de musique en Europe. Et rappelons qu'il y a une nouvelle édition de ce remarquable livre qui est presque un roman.
C'est un roman.
La rencontre de Lübeck.
On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On n'a aucune raison de le savoir, parce que le jeune homme Bach est inconnu qui vient écouter le vieux maître.
Oui.
Les gazettes n'ont aucune raison de s'y intéresser.
Bon, enfin...
Mais on ne sait rien. Mais j'ai donc inventé ce qu'avait pu être.
Bien sûr.
Et je vous assure, je n'ai pas inventé un lieu, un personnage, une situation qui n'ait existé. Donc j'ai mis en scène, je suis un peu le metteur en scène, et tout aurait pu se produire exactement comme je le décris.
Et voilà, d'ailleurs, c'est passionnant. Je dis ça à nos auditeurs, donc merci encore.
Avec joie, à une prochaine fois.
À une prochaine fois.